Chapitre 7. À dater de ce dîner, Wenaël reprit quelques-unes des habitudes antérieures à son accident. Accompagné de Paul Le Guen, son secrétaire, il fit des promenades à travers les landes et la forêt, de longues randonnées à cheval ou en automobile. Les paysages disparaissaient pour lui derrière un voile de nuées légères, mais il était rare maintenant qu'il fît une allusion à son infirmité. Il semblait vivre dans une songerie presque continuelle dont il sortait seulement quand apparaissait Annonciade. Plus d'une fois, Run et Mademoiselle Le Hennec furent conviés à l'accompagner dans ses excursions en voiture. Ou bien, quand le temps était beau, il les emmenait dans son petit yacht commandé par un vieux loup de mer qui avait pour lui une admiration fanatique. Tout cela paraissait produire le meilleur effet sur la santé d'Annonciade. Le teint, un peu pâle auparavant, à la suite des épreuves traversées par la jeune fille, se colorait délicatement, les yeux prenaient un éclat plus vif. Sur les lèvres d'un rose très doux, le sourire venait fréquemment. Tous ceux qui voyaient Annonciade disaient « Mademoiselle Le Hennec devient de plus en plus jolie ». Devant le changement survenu chez son fils, Madame de Pendelon laissait voir une satisfaction très vive. Elle déclarait à Madame Le Hennec, qui lui rendait visite de temps à autre, « C'est votre Annonciade qui nous a porté bonheur. Sa jeunesse, son charme, ont distrait mon pauvre fils de ses tristes pensées, l'ont enlevé à l'existence lugubre où il s'enlisait. » Madame Le Hennec répliquait, avec son habituel demi-sourire, « Oui, c'est une bonne enfant, une très bonne enfant, bien dévouée. Nous n'avons qu'à nous en louer véritablement. » Cette amélioration du moral chez M. de Pendelon remplissait Annonciade d'une joie secrète. Ses prières étaient donc exaucées sur ce point-là. Il renonçait à sa morne indifférence, à cet isolement dangereux, si bien fait pour l'amener au désespoir mortel. Ah, si Dieu voulait écouter les supplications qu'elle lui adressait chaque jour, s'il voulait éclairer, transformer cette âme incroyante, ce cœur jusqu'alors tout occupé de lui-même, absorbé dans les jouissances de ce monde. C'était maintenant, sans le tremblement des premiers jours, qu'Annonciade se rendait à Guerlac. Mais une émotion profonde continuait de la saisir quand elle franchissait le seuil de cette demeure, et son cœur battait plus vite, toujours, dès qu'elle entendait le pas de Wenaël et qu'apparaissait la souple, élégante silhouette qu'elle avait souvent suivie naguère d'un œil attentif et charmé lorsque M. de Pendelon la quittait après une causerie dans le jardin de la Bastide. Elle s'inquiétait de cet émoi, vraiment sans motif, pensait-elle, car le châtelain de Guerlac se montrait d'une correction exemplaire. Elle essayait de se raisonner, de s'obliger à l'oubli de ce passé qui venait jeter entre M. de Pendelon et elle son ombre troublante. Les lectures à haute voix continuaient, soit dans le salon de la marquise, soit, le plus souvent, dans la bibliothèque ou le petit jardin. Les lys fleurissaient à profusion dans l'enclos qui semblait un parterre de monial. Annonciade en aspirait l'odeur avec un peu d'ivresse, tandis qu'elle lisait ou écoutait parler Wenaël. Enfoncé dans un fauteuil profond, M. de Pendelon ne la quittait pas des yeux, mais il savait faire cette attention discrète de telle sorte qu'elle en était rarement gênée. Run brodait en silence, mais Annonciade, pour la faire valoir aux yeux de son frère, lui adressait assez souvent une question qui l'amenait à donner son avis au cours d'un entretien. Alors, comme un éclair dans la nuit, un peu de sa forte intelligence, de sa culture intellectuelle fort étendue, se révélait à Wenaël. Il s'en montrait surpris et disait « Tu connais cela, Run? Tu t'intéresses à ces questions ?»« Mais oui, pourquoi pas ?»« Certes, je n'y vois aucun inconvénient, mais je croyais... » Il n'achevait pas sa pensée, qui était celle-ci « Je te croyais trop sotte pour cela !» Run avait un léger sourire, un peu amer, avant de se mettre à la broderie, la seule chose où elle réussit, disait Madame de Pendelon. Un après-midi, au retour d'une promenade en mer, les trois jeunes gens vinrent s'asseoir dans le petit jardin. En présentant à Annonciade un livre pris au passage dans la bibliothèque, Wenaël lui demanda « Voulez-vous me lire un peu d'Homère, mademoiselle? Voilà si longtemps que je l'ai délaissé. » Elle eut un léger frémissement et le sang monta plus vif à ses joues. Homère ! Aussitôt, elle évoquait la terrasse de la Bastide, deux vieilles gens et une jeune fille attentive, un homme aux yeux ensorceleurs qui lisait. Depuis ce jour-là, elle n'avait plus ouvert le vieux livre où se trouvait inscrit son nom, le livre que M. de Pandelon lui avait apporté un matin pendant qu'elle cueillait des giroflées sous les oliviers. Il lui revenait en foule ses souvenirs, tandis que les phrases harmonieuses passaient entre ses lèvres. Et elle se demandait, avec une sorte d'angoisse, « Y pense-t-il, lui aussi ?» Elle n'osait lever les yeux, craignant que son regard trop ému ne rencontrât celui de Wenaël. Mais M. de Pandelon, l'air songeur, considérait la statue mutilée tout en caressant le museau de son chien. Quand Annonciade se tut seulement, il tourna la tête vers elle. « Merci, mademoiselle. Il reste toujours l'incomparable, notre vieil Homère. Continuez-vous de le relire ?» Elle dit, d'une voix un peu tremblante, « Non, pas depuis plus d'un an. » Leurs regards se rencontrèrent. Dans celui d'Annonciade, les réminiscences douloureuses apparaissaient, mêlées à l'émoi de cet amour toujours vivant. Les yeux de Wenaël s'éclairaient de tendresse, de chaude et mélancolique douceur. À mi-voix, il prononça quelques mots en grec. Run ne comprit pas, ignorant cette langue. Mais Annonciade traduisit aussitôt en elle-même. M. de Pandelon disait « Nous le lisions ensemble, alors ». Elle baissa les yeux. Le livre glissa de ses mains jusqu'à terre. Wenaël se pencha pour le ramasser, puis le mit sur la table près de lui. Pendant un moment, il suivit des yeux le soleil qui, lentement, quittait le petit parterre. Annonciade avait pris un ouvrage et piquait un peu nerveusement l'aiguille dans la toile bise. Run, le front plissé, paraissait fort appliqué à sa broderie. Wenaël, ramenant sur elle son regard, demanda un peu ironiquement « Que fais-tu, Run, de tous ces ouvrages qui passent entre tes mains? Que deviennent-ils une fois terminés ?» Elle s'interrompit un instant pour répondre « Je les envoie à une jeune femme durement éprouvée par des revers de fortune. » Elle les vend à son profit et cela lui semble moins pénible que de recevoir directement une aumône. Ah, c'est un peu subtil. Oui, mais il faut ménager la sensibilité, la fierté vive de ces âmes malheureuses. C'est un des devoirs de la charité, parfois un peu trop oublié. Annonciade fit observer. Je crois que vous devez y exceller, mademoiselle. Run sourit avec un peu d'amertume. On pourrait penser que ma rudesse native ne m'y prédispose pas. Annonciade protesta vivement. « Votre rudesse, comme vous vous méconnaissez, il y a chez vous tant de bonté unie à la plus grande délicatesse. » Mademoiselle de Pandelon eut un léger mouvement d'épaule en continuant de tirer l'aiguille d'un geste tranquille. Le regard de Wenaël, un instant arrêté sur elle, avec un intérêt mêlé de curiosité, se reporta sur Annonciade. « Et vous, mademoiselle, que faites-vous des tricots, crochets, broderies qui avancent avec tant de rapidité ?»« Ces ouvrages me sont confiés par ma belle-mère, qui le destine à ma sœur, à mes frères ou à l'agrément du logis. » J'espère cependant qu'elle vous laisse la possibilité de travailler aussi pour vous. » Annonciade eut un instant d'hésitation avant de répondre avec quelque embarras. « Certainement. » En réalité, Madame Le Hennec s'arrangeait pour accaparer tout son temps et, quand elle travaillait à l'entretien de sa modeste garde-robe, il lui fallait s'attarder le soir, bien heureuse encore si, confiante dans son goût et son adresse, sa belle-mère ne lui avait pas donné à mettre en état quelques chapeaux ou vêtements. Pendant un moment, Wenaël resta songeur. Puis il se pencha vers Annonciade. « Comment est-elle pour vous, Madame Le Hennec, s'il m'est permis de le demander sans indiscrétion ?» Avec le même embarras, Annonciade répondit « Mais elle n'est pas mal, j'ai été accueillie par elle avec bienveillance. » Et sans chaleur, n'est-ce pas? Sans l'affection qu'il vous aurait fallu après que vous veniez de perdre ces deux êtres si bons qui vous aimaient tant? J'ai ouï dire naguère que Madame Le Hennec s'entendait à tirer des gens tout ce qu'ils pouvaient donner en fait de travail. Il faudrait vous en défier afin de ne pas vous laisser submerger par ses exigences. » Elle rougit un peu sous ce regard qu'elle sentait perspicace, toujours, en dépit de son affaiblissement. Gwenaël, cet après-midi, lui parla aussi de ses frères, de sa sœur. Il semblait souhaiter connaître l'existence qui lui était faite sous le toit paternel, les sympathies ou les secrets froissements qu'elle y rencontrait. Tout cela, d'ailleurs, de façon habile et discrète. Mais Annonciade, ce jour-là particulièrement, eut conscience que M. de Pandelon lui accordait un intérêt qu'il semblait n'apporter plus à aucune chose au monde. En quittant Gerlac, elle était plus émue, plus troublée que de coutume. Cette lecture d'Homère avait réveillé de trop profonds souvenirs, et cela, non pas seulement chez elle, ainsi que le lui avaient prouvé le regard et les paroles de Gwenaël. Ce regard, combien il lui en rappelait d'autres qui lui avaient fait tant de mal. Ah, comme elle avait raison de redouter ses visites à Gerlac que Madame Le Hennec déclarait sans danger. Elle entra au passage dans la vieille église sombre et déserte. Contre les vitraux mouraient les clartés du soir. Le grand Christ ancien, au fond de l'abside, apparaissait enveloppé de pourpre et de sinople. Annonciade s'agenouilla et pria longtemps dans l'ombre qui devenait plus épaisse à chaque minute, si longtemps qu'elle trouva sa famille à table quand elle entra dans la salle à manger. Mais Le Hennec dit paisiblement « Je pensais qu'on vous avait retenu à dîner. »« Oh non, mais je me suis attardée à l'église. »« Bien, bien, ôtez vite votre chapeau et prenez votre potage. Monsieur de Pandelon va toujours mieux. » Au point de vue moral, oui. Quant aux yeux, l'amélioration ne vient pas. Cependant, leur état ne s'aggrave pas non plus, ce qui laisse quelque espoir. Certainement, beaucoup d'espoir même. Savez-vous s'il a revu l'oculiste ? Pas encore, mais je crois qu'il va s'y décider. Nous le lui avons conseillé vivement, Mademoiselle de Pandelon et moi. Il avait presque complètement renoncé à se soigner, mais il paraît changer d'avis maintenant. Madame Le Hennec eut un léger sourire de satisfaction. Il reprend goût à la vie, c'est bon signe. Goulevin s'exclama. Il est toujours aussi chic en tout cas. Je l'ai rencontré hier comme il se promenait avec son secrétaire. En même temps que moi, passait la petite Anglaise qui habite Ordennec et que François trouve si jolie. Elle lui a fait les yeux doux et s'est retournée au moins trois fois. Madame Le Hennec interrompit le jeune garçon. Nous n'avons pas besoin de tes racontars. Miss Stephens est d'ailleurs passablement effrontée. Il n'est donc pas étonnant qu'elle se soit permis de regarder ainsi M. de Pandelon, ce que s'interdirait toute jeune personne bien élevée. Annonciade, tandis que sa belle-mère parlait, se souvint tout à coup d'avoir vu plus d'une fois la blonde Anglaise se promener aux environs de Gerlac. Était-ce dans l'espoir d'apercevoir M. de Pandelon ? Quel attrait puissant il exerçait donc cet enchanteur ! Hélas, elle en savait quelque chose. De nouveau, le souvenir du regard de Gwenaël dans le petit enclos fleuri vint agiter son cœur et fit monter à ses joues une rougeur légère que nota du coin de l'œil Madame Le Hennec.